Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment lutter contre la stigmatisation associée aux maladies mentales? Un texte de l'Association canadienne pour la santé mentale, paru le 11 mars 2025 dans Le Régional. Malheureusement, nous sommes encore confrontés à la stigmatisation associée aux maladies mentales dans notre entourage. La stigmatisation se produit lorsque nous percevons une personne de manière négative en raison d'une caractéristique ou d'un attribut particulier. Un type de stigmatisation se produit lorsqu'une personne est définie par sa maladie mentale plutôt que par ce qu'elle est en tant qu'individu. Lorsque des personnes sont traitées de manière négative en raison de leur maladie mentale, il s'agit de discrimination. La stigmatisation et la discrimination sont souvent le résultat d'un manque de compréhension ou de la peur. La stigmatisation sociale et la discrimination peuvent aggraver les problèmes et rendre plus difficile le rétablissement des personnes vivant avec une maladie mentale. Il existe de nombreuses façons de lutter contre la stigmatisation. Si vous êtes une personne vivant avec une maladie mentale, sensibilisez les autres. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez partager votre histoire personnelle autour de vous et les défis que vous vivez en lien avec la maladie mentale. Vous pouvez le faire sur les médias sociaux ou en personne avec des gens de votre entourage. Si vous entendez une conversation sur la maladie mentale, vous pouvez en profiter pour partager vos connaissances et votre expérience. Si quelqu'un fait des commentaires irrespectueux, vous pouvez exprimer gentiment ce que vous ressentez et dire qu'il est important de mettre fin à ce comportement car il contribue à la stigmatisation. Encouragez l'égalité entre les maladies physiques et mentales. Lorsque les gens réalisent qu'une maladie mentale est aussi considérée comme étant une maladie, au même titre que le cancer ou le diabète, ils sont moins enclins à se moquer d'une personne vivant avec une maladie mentale. Soyez honnête au sujet de votre traitement. N'ayez pas peur de dire que vous consultez un thérapeute ou un psychiatre. Les gens ne craignent pas d'être jugés en disant qu'ils ont un rendez-vous avec leur médecin de famille. Nous pouvons encourager la même ouverture d'esprit au sujet de l'aide reçue en lien avec la santé mentale. Si la stigmatisation est présente dans les médias, faites-leur savoir. Si vous regardez une émission de télévision qui donne une image négative des personnes vivant avec une maladie mentale, vous pouvez écrire un message à la société de radiodiffusion ou à l'émission elle-même. La même stratégie peut être appliquée lorsque vous lisez des articles sur les médias sociaux qui contiennent des commentaires négatifs ou ignorants sur la santé mentale. Vous ne vivez peut-être pas avec des problèmes de santé mentale, mais vous souhaitez tout de même lutter contre la stigmatisation. Voici quelques suggestions. Informez-vous et informez les autres. Renseignez-vous sur les maladies mentales, y compris les troubles liés à l'utilisation de substances, et partagez vos connaissances avec les personnes qui vous entourent. Vous pouvez parler des faits et combattre les mythes et les stéréotypes. Prenez conscience de vos attitudes, de votre comportement et des mots que vous utilisez lorsque vous parlez des maladies mentales. Examinez les jugements que vous pouvez avoir qui peuvent provenir de la société ou de votre éducation. Soutenez les gens. Apportez votre soutien et vos encouragements aux personnes qui vivent avec des défis au niveau de leur santé mentale. Mettez un point d'honneur à traiter tout le monde avec dignité et respect. Mettez l'accent sur le positif. Transmettez des attitudes positives et mettez l'accent sur les forces des individus. Les maladies mentales, y compris les dépendances, ne sont qu'une partie de l'histoire de la vie d'une personne. C'était « Comment lutter contre la stigmatisation associée aux maladies mentales », un texte de l'Association canadienne pour la santé mentale, paru le 11 mars 2025 dans Le Régional.
Cafouillage sur la place des étudiants étrangers dans les conservatoires du Québec. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 2 avril 2025 dans Le Devoir. Le ministère de l'Enseignement supérieur a octroyé un quota de seulement 3 permis d'étudiants étrangers pour les 9 conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. Ceux-ci comptent déjà 28 étudiants internationaux en pleine formation. Comment garder ces étudiants-là? Comment répondre aux demandes des 75 étudiants étrangers qui voulaient passer leur audition cette année? La réponse se fait encore attendre. C'est avec regret que le conservatoire ne pourra considérer de demande d'admission d'étudiants étrangers pour l'année scolaire 2025-2026. Peut-on lire sur le site du Conservatoire du Québec, à l'exception d'une autorisation très limitée pour le programme collégial offert à Montréal. Le 26 février 2025, à 5 jours de la fin des demandes d'admission pour la prochaine année, le conservatoire a appris qu'il ne pourrait avoir que 3 étudiants étrangers à son diplôme d'études collégiales, DEC, et 10 en quête d'une attestation d'études collégiales, AEC. Mais l'AEC, on n'offre pas ce diplôme-là, a soupiré Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire du Québec, lorsque Le Devoir lui a demandé des explications sur la situation. C'est 10 places qu'on ne peut pas utiliser. Sur les quelques 950 étudiants que forme présentement le Conservatoire du Québec, on compte 27 étrangers, beaucoup plus que ce que le quota lui permet d'accueillir. Si la situation est en discussion actuellement, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le conservatoire doit gérer les impacts imprévus de cette assignation insuffisante de quotas et un grand stress sur la petite équipe du registrariat de Montréal, sur les étudiants étrangers en formation, dont certains craignent d'être éjectés de leur formation, et sur ceux qui aspiraient à venir apprendre ici les arts. Car il y a un vrai risque de créer une entrave à notre continuum de formation en musique, explique par courriel la secrétaire générale du Conservatoire du Québec, Michel Bernier. Un jeune élève étranger qui termine son cours préparatoire niveau primaire-secondaire pourrait se voir privé d'accéder au niveau supérieur, collégial et universitaire. Même chose pour un élève étranger qui termine son cours collégial et qui ne pourrait accéder au niveau universitaire. En date du 18 mars 2025, 75 demandes d'admission d'étudiants étrangers pour 2026 avaient été déposées au Conservatoire du Québec sur près de 800 demandes au total. Les seuls étrangers qui peuvent être admis sont ceux qui ont soumis une demande de certification d'acceptation du Québec avant le 26 février 2025 ou qui en avaient déjà un et qui n'auront pas besoin de le renouveler au-delà de la date de fin inscrite sur le document. Plusieurs étudiants étrangers qui devaient passer l'audition se sont désistés, a précisé Mme Bernier. Le Conservatoire du Québec, cette bibitte. Comment expliquer ce fossé entre les besoins du Conservatoire du Québec et le quota attribué? Certaines particularités de notre institution n'ont pas été prises en compte, a résumé son directeur, le ténor Marc Hervieux. On nous a considérés seulement comme un cours collégial. Pourtant, notre force dans les conservatoires de musique, c'est de suivre les étudiants longtemps. On accompagne ceux qui le veulent dès qu'ils sont très jeunes. Le conservatoire offre ainsi une formation au primaire, au secondaire et au collégial, ainsi que sur 2 cycles universitaires, le baccalauréat et la maîtrise. Le ministère de l'Enseignement supérieur, MES, connaîtrait donc si mal ces institutions? Il ne faut pas oublier qu'on est une drôle de bibitte, précise M. Hervieux. On relève du ministère de la Culture, qui nous comprend très bien, mais on dépend des règles du MES. Autre raison du quiproquo. pour établir les quotas pour tout son réseau d'éducation. Le MES s'est basé sur le nombre d'étudiants étrangers présents en 2024. Or, le conservatoire n'a pas l'obligation de déclarer ses effectifs d'étudiants internationaux, comme l'a confirmé Alexandre Brassard du cabinet de la ministre de l'Éducation supérieure, Pascale Dehry. Il ne l'a donc pas fait en 2024. Le Conservatoire du Québec n'a eu en aucun moment de signal selon lequel cette situation était susceptible de nous causer préjudice dans cette nouvelle orientation gouvernementale, indique de son côté Michel Bernier. Nous sommes bien conscients de la situation particulière de cet établissement et nous travaillons actuellement à trouver une solution, a ajouté M. Brassard au nom du MES. D'ailleurs, il importe de souligner que les programmes universitaires du conservatoire sont des programmes maison et sont sanctionnés uniquement par le conservatoire, contrairement au diplôme de DEC sanctionné par le MES, précise la secrétaire générale du conservatoire. L'établissement se voit donc privé de pouvoir accueillir au programme supérieur certains candidats de grand talent, conclut Mme Bernier. Des alliances en péril. La situation met aussi en péril des projets de collaboration internationale. À l'automne dernier, on est allé en Europe pour créer des alliances, ajoute Marc Hervieux. On a des super projets avec 5 conservatoires à travers le monde, dont Strasbourg, Bruxelles, Lausanne et l'École normale supérieure de musique de Paris. Mais là, on est peinturé dans le coin, les deux mains attachées. Ça court-circuite tout notre travail sur les échanges de formation. On peut encore envoyer des étudiants en stage là-bas, en recevoir ici, mais ils ne seront pas inscrits dans le cursus. En termes d'échanges internationaux, ça ne fait pas sérieux. C'est comme si on offrait juste des vacances, finalement. Le réseau du Conservatoire d'art dramatique et de musique du Québec compte 7 établissements consacrés à la musique, Gatineau, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières, Val-d'Or et Montréal. Ce dernier accueille 16 des 27 étudiants étrangers qui y étudient la musique. S'ajoutent les conservatoires d'art dramatique de Québec et de Montréal, avec un étudiant d'ailleurs à Montréal, pour un total de 28 étudiants étrangers inscrits, sur quelque 950 étudiants en tout. C'était Cafouillage sur la place des étudiants étrangers dans les conservatoires du Québec, un texte de Catherine Lalonde, paru le 2 avril 2025 dans Le Devoir.
Les lieux d'hébergement ont accueilli 15% plus d'itinérants en 2 ans au Québec. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 4 avril 2025 dans Le Devoir. De nouvelles données confirment ce que beaucoup soupçonnaient. Le nombre de personnes en situation d'itinérance est en forte hausse au Québec dans les ressources d'hébergement. En 2024, ces lieux ont accueilli 15% plus de personnes sans-abri que 2 ans auparavant, soit 1228 personnes supplémentaires. Le ministère de la Santé a recensé 9307 personnes dans 623 lieux d'accueil. C'est 15% de plus que ce qui avait été comptabilisé en 2022, selon un nouveau rapport diffusé par le gouvernement. Ces données ont été recueillies dans la nuit du 23 avril 2024, lors d'un dénombrement de tous les sans-logis présents dans les refuges et dans d'autres ressources. Hébergement d'urgence, centres de réadaptation et de dépendance, ressources de transition, hôtels ou motels payés par un organisme, hôpital, centre de détention. Elle n'inclut donc pas la totalité des personnes en situation d'itinérance, puisque les gens qui se trouvaient dehors, dans des campements ou encore dans des haltes chaleur, n'ont pas été recensés. Un exercice plus complet incluant toutes ces personnes sera réalisé dans le cadre d'un dénombrement à la mi-avril. Or, il faudra ensuite attendre de longs mois avant que ces données soient analysées et rendues publiques dans un rapport. Lors du dernier dénombrement en 2022, le ministère avait recensé quelque 10 000 personnes en situation d'itinérance au Québec, hébergées ou non, ce qui représentait une hausse de 44 % par rapport à 2018. Dès lors, si les résultats du futur dénombrement sont d'une hauteur comparable à celle de l'énumération, plus 15 %, on pourrait s'attendre à ce que le nombre total de personnes itinérantes ait atteint 11 500 personnes cette année, voire davantage. 70 % de plus en Abitibi-Témiscamingue. Les données du récent dénombrement montrent en outre que la situation est particulièrement critique dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, où le nombre de personnes accueillies dans les sites d'hébergement temporaire a cru de 72 % en 2 ans. La Côte-Nord, Laval et la Montérégie suivent dans ce désolant palmarès avec des hausses respectives de 52 % 40 % et 27 %. En nombre absolu, les hausses les plus marquées ont été observées à Montréal, 510 personnes de plus qu'en 2022, en Montérégie, plus 167, et dans la région de la Capitale-Nationale, plus 117. Le ministère souligne que ces données montrent l'ampleur de l'effort que réalisent quotidiennement les groupes communautaires pour héberger les personnes vulnérables. Il note aussi que les taux d'occupation des ressources sont préoccupants. Au total, le réseau avait la capacité d'héberger 12 451 personnes lors du dénombrement. De plus en plus incarcérés. Dans le rapport, Québec constate aussi que les itinérants se retrouvent de plus en plus en détention. En 2 ans, leur présence dans les postes de police et les prisons a cru de 41%, soit environ 2 fois plus que l'augmentation de la population carcérale, 19%. Par rapport à 2018, la présence des sans-logis derrière les barreaux a augmenté de 60%. La surjudiciarisation peut être un indice que l'itinérance est parfois considérée, et cela est contraire à la politique nationale de lutte à l'itinérance, comme une nuisance publique, notent les auteurs du rapport. C'était « Les lieux d'hébergement ont accueilli 15 % plus d'itinérants en 2 ans au Québec », un texte d'Isabelle Porter, paru le 4 avril 2025 dans Le Devoir.
À hauteur d'X, l'art au service de la mémoire collective. Un texte d'Alexandra Trotman, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes. Une œuvre en hommage aux suffragettes d'ici. En février 2024, l'Assemblée nationale du Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ, lancer un concours pour la réalisation d'une œuvre célébrant le 85e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec. Au terme de cet appel, c'est l'œuvre « À hauteur d'X » de l'artiste multimédia Isabelle Gagné qui a remporté les suffrages parmi la vingtaine de dossiers reçus. À travers 15 portraits numériques de militantes, cette œuvre interdisciplinaire évoquera l'écosystème des femmes qui se sont battues pour l'obtention du droit de vote et jumellera la vidéo, le dessin numérique, la poésie et les images d'archives. L'art nous permet d'incarner une réalité. C'est une si belle façon de parler à tout le monde, observe Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale, qui se réjouit de l'arrivée au Parlement de cette nouvelle œuvre, dont l'inauguration est prévue pour avril 2025. Plongée dans les documents d'époque. Il aura fallu plusieurs mois de lecture et de recherche pour que l'œuvre, à hauteur d'X, voie le jour. C'était incontournable pour comprendre tout ce réseau de militantes, commente l'artiste Isabelle Gagné. Certaines de ces figures sont très connues, comme Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean ou Marie Lacoste Gérin Lajoie. Mais il me semblait important de faire ressortir le parcours de militantes issues de toutes sortes de milieux, du monde universitaire à la botanique, en passant par le droit. Pour créer ces portraits, Isabelle Gagné s'est inspirée de photographies du 19e et du 20e siècle, glanées dans différents fonds d'archives. Les tirages d'époque devaient être d'une qualité suffisante pour que je puisse les rendre en dessin vectoriel. J'ai ensuite retravaillé chaque photographie à l'aide d'un logiciel adapté spécifiquement à ma pratique, explique l'artiste. Ce processus artistique l'a mené notamment dans les archives de Radio-Canada, de l'Office national du film du Canada, des fonds La Presse et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On comprend aisément que le jury de pairs du CALQ, et qui a retenu sa proposition, ait souligné la recherche historique impressionnante requise pour cette création numérique d'une durée de 5 à 7 minutes. Les 15 portraits seront projetés en alternance avec des vidéos d'archives représentant des Québécoises des années 1920 à 1950, de tous les âges et de tous les horizons. Je voulais proposer un tableau vivant de ces innombrables personnes qui ont pu être touchées par le discours féministe de l'époque, indique Isabelle Gagné. Les centaines de traits qui relient les portraits les uns aux autres s'apparentent au fil multicolore d'une pièce de broderie. Ces traits de crayon virtuel, comme autant de rhizomes, instaurent une communication visuelle entre les militantes représentées. Une analogie de leur engagement pour un rêve commun. Le texte comme fil conducteur. Malgré ce travail de recherche phénoménal, l'artiste souligne le caractère créatif et expérimental de l'œuvre. Pour preuve, elle a donné carte blanche à l'autrice Maude Pilon, qui signe les textes d'A Hauteur d'X. Autrice reconnue pour sa pratique contemporaine et militante, Maude Pilon approche tous ses projets avec une grande part de recherche. Ici, ce sont les discours et journaux d'époque qui lui ont fourni la matière première. Elle compare sa démarche à celle d'une artiste collagiste. J'ai procédé à un collectionnement de matériaux textuels que j'ai ensuite reformulé pour les faire fonctionner ensemble et les fusionner. À l'instar d'Isabelle Gagné, Maude Pilon compare à Hauteur d'X à une broderie où les argumentaires, comme des fils, sont entrelacés et imbriqués les uns aux autres jusqu'à fournir une vision d'ensemble. J'ai eu un plaisir fou à fouiller dans les écrits d'époque, à comprendre les arguments, contre-arguments et sous-arguments pour et contre le droit de vote des femmes. Tout l'aspect rhétorique et stratégique qui visait à faire changer les mentalités. Comment ces discours se sont-ils tissés entre eux? De quelle manière se répondaient-ils? Relate l'autrice. En intercalant ces phrases amalgamées, le travail d'écriture joue avec les codes du théâtre. C'est cette vision expérimentale de la littérature, propre à Maude Pilon, qui intéressait Isabelle Gagné. La parole des femmes qui se sont battues pour nos droits est primordiale. Avec cet aspect poétique, je désirais ajouter une dimension quasi pamphlétaire à l'œuvre qui traduit les moyens de communication utilisés par ces femmes pour transmettre leurs idées et leurs convictions. Et pourquoi le titre à hauteur d'X? Isabelle Gagné propose plusieurs clés de lecture. On peut certes penser au X tracé sur le bulletin de vote, mais aussi aux deux traits du X qui, ainsi croisés l'un sur l'autre, prennent un sens symbolique et un poids décisionnel. Enfin, en typographie, la hauteur d'X désigne la hauteur de référence d'une police basée sur la hauteur de sa lettre X. On retrouve dans cette troisième interprétation un clin d'œil à l'importance du texte et de la communication dans l'histoire du droit de vote des femmes. L'art comme outil d'éducation et de sensibilisation. À hauteur d'X sera diffusé en continu dans l'Agora de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Ce lieu accueille environ 130 000 visiteuses et visiteurs chaque année, dont beaucoup de classes et d'élèves. Il faut s'approprier notre Parlement et notre patrimoine commun. Je pense que c'est l'un des parlements les plus ouverts au monde, insiste la présidente Nathalie Roy, convaincue que l'arrivée de cette nouvelle œuvre permettra de mieux faire connaître l'histoire de la place des femmes en politique au Québec. J'aimais l'idée de créer une œuvre devant laquelle les visiteurs ne sont pas obligés de rester 5 minutes complètes, précise l'artiste. En 30 secondes ou 1 minute, on captera l'essence du message. Il s'agit d'un aspect d'accessibilité qui lui semblait central à la vocation de l'œuvre. À la veille du 85e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec, Nathalie Roy rappelle l'importance de la transmission des connaissances. Tout passe par l'éducation, et l'art représente une façon ludique d'enseigner notre histoire. C'est un travail phénoménal qui a été fait par d'autres personnes, avant nous, pour ouvrir la porte aux femmes en politique. Et maintenant, c'est à nous de veiller à garder cette porte ouverte pour l'avenir. C'était À hauteur d'X, l'art au service de la mémoire collective. Un texte d'Alexandra Trotman, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes.